La librairie Jean Calvin, un cycle au protestantisme et au pouvoir, les protestants à l'épreuve du pouvoir. Ce soir, nous sortons donc exceptionnellement du cycle pour une conférence thématique et un thème fondamental, important, puisqu'il n'a jamais été encore abordé dans le travail historiographique. Et nous remercions Michel Yonner d'avoir accepté notre invitation et qui est le spécialiste de ce thème, puisqu'il a consacré sa thèse, que vous pourrez venir consulter ici si vous le voulez, qui se trouve sur la table, deux gros volumes d'une thèse d'État. Sinon, on fait sans le micro. Donc, je disais deux gros volumes d'une thèse d'État. Et le sujet en question est donc le mariage au désert. Vous savez que les protestants français, Michel va nous le rappeler, mais à partir de 1685, n'ont plus d'existence légale en France et se pose pour eux la question de leur existence civile, que ce soit par le baptême, par le mariage ou évidemment aussi par la mort, par l'inhumation. Et cette question-là va rebondir aussi sur la question de la tolérance. Un des principaux protagonistes de la défense, alors du coup on arrive à un volume sonore puissant, mais on va finir par y arriver, on va s'ajuster. Voilà, c'est très bien, Jonathan, merci. Un des protagonistes les plus importants de cette question à la fin du XVIIIe siècle, c'est Rabaud Saint-Étienne, que j'aime beaucoup, non pas pour sa théologie, mais pour une phrase qui l'a rendu célèbre. Lors d'une intervention à la Constituante, où il dit cette phrase exceptionnelle, je ne suis pas venu réclamer la tolérance, mais la liberté. Et Rabaud Saint-Étienne a, à mon goût en tout cas, pose ici un fondement essentiel de la différence entre tolérance et liberté, qui est aujourd'hui encore très mal comprise dans notre espace public, puisqu'on utilise à tort le terme tolérance comme synonyme justement de la liberté, alors qu'au XVIIIe siècle et avant, évidemment, il n'a pas du tout cette signification. Alors Michel Yonner a consacré sa thèse donc à toute cette question-là. Il est doyen de la fac d'Aix. On le remercie d'avoir accepté cette invitation. Une conférence qui se déroulera sur le même format que d'habitude, 50 minutes d'intervention de notre conférencier, après quoi on pourra poser des questions, intervenir, réagir à ce qui aura été dit pendant à peu près une vingtaine de minutes. Et je laisse tout de suite la place donc à Michel.
Voilà, bonsoir à tous. Je suis très heureux de venir jusqu'ici, jusqu'à Alès, la porte des Cévennes, pour parler de ce sujet bien particulier, le mariage au désert, et qui est un sujet paradoxalement très peu connu. On connaît les assemblées au désert, par exemple, mais on connaît très mal la discipline et les pratiques du mariage chez les Huguenots pendant le siècle de la révocation de l'édit de Nantes. Donc je vais vous en parler. J'ai écrit 800 pages sur ce sujet là-devant. Je vais essayer de vous les résumer en 50 minutes. C'est un peu une gageure, mais nous allons essayer de dire l'essentiel. Le mariage huguenot au désert, on ne peut pas commencer à parler de cela sans parler de la vision protestante du mariage à partir du XVIe siècle, XVIIe siècle. On appelait d'ailleurs le mariage au désert mariage à la façon de Calvin ou à la mode de Genève. C'est vous dire qu'il y a une préhistoire importante à ce mariage. Donc, quelques mots sur la pensée protestante sur le mariage. On peut résumer toute la pensée protestante du XVIe siècle sur le sujet dans cette affirmation: le mariage n'est pas un sacrement. La pensée protestante commence vraiment par une protestation contre la doctrine catholique du mariage. C'est un sujet très polémique au XVIe siècle. Et l'ensemble des écrits sur ce sujet du XVIe siècle, sous la plume des réformateurs, portent précisément sur ce sujet. Ce sont des dissertations qui exposent de A jusqu'à Z pour quelles raisons le mariage n'est pas un sacrement. Alors, très rapidement, un élément pour comprendre le sens de cette restriction. Si le protestant retient deux sacrements et non pas sept, c'est tout d'abord pour une raison de vocabulaire. Il va donner au sacrement un sens théologique plus restrictif. Rapidement, ce sont des actes qui ont été formellement institués par le Christ, qui relèvent de son autorité. qui concerne des vocations ou des grâces qui sont communes à tous les chrétiens, constitutives de leur identité, et qui concerne toujours le salut, la grâce qui est en Jésus-Christ. Ensuite, surtout, une autre idée sur le mode opératoire du sacrement, point très sensible chez les protestants qui stigmatisent la doctrine catholique de la transsubstantiation. Le sacrement n'agit pas de façon magique ou automatique, ex opere operato, mais il n'a pas d'efficacité, il n'est pas performatif, comme on dirait aujourd'hui, indépendamment de la foi personnelle des bénéficiaires. Il n'y a pas de magisme, il n'y a pas d'automatisme dans son mode opératoire qui soulagerait à bon compte celui qui va à confesse ou qui pourrait rendre sa conversion personnelle facultative. Et enfin, pour dire l'essentiel, la critique protestante du sacrement catholique se repose surtout, c'est une critique des pouvoirs considérables que la doctrine catholique du sacrement a donné à l'Église catholique dans l'histoire et dont les protestants ont été les premiers à pâtir, en particulier pendant le siècle de la révocation. Des pouvoirs absolus sur l'ensemble de la société et la vie d'un être humain, sa naissance, son état civil, la formation de sa famille, sa mort, et même au-delà de sa vie, son accès à la vie éternelle, à sa libération du purgatoire. Ce sont toutes les thèses de Luther qui stigmatisent ce sujet-là. Bref, la forme de tyrannie, comme on disait autrefois, que la doctrine catholique des sacrements permettait à celle-ci d'exercer sur les consciences. Alors, positivement, théologiquement, les protestants ont redéfini le mariage, la Bible à la main, comme une alliance que Dieu a lui-même instituée et placée sous sa bénédiction, mais qui est de nature civile, politique, sociale. En théologie protestante, c'est un peu étrange pour un catholique, mais le oui devant l'officier d'état civil est aussi le oui devant Dieu. Il n'y a pas de dichotomie entre les deux. Il n'y a pas de oui civil auquel viendrait s'ajouter un oui religieux, pas plus qu'il n'y a de oui religieux qui ne serait aussi un oui civil. Et cette ordonnance, qui est considérée comme créationnelle, concerne tout homme, que celui-ci soit croyant ou non, du seul fait de son statut de créature. Il relève, diront les protestants, de la grâce générale ou commune par laquelle Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Et ils ont acquis conjointement la conviction que ce n'est pas à l'Église que Dieu a confié la responsabilité de fixer les droits ou les lois du mariage ou ses effets civils, mais à l'État, aux princes temporels, aux magistrats, au titre des pouvoirs particuliers qui leur sont conférés dans l'Épître aux Romains, chapitre 13. À l'État appartient le pouvoir législatif sur le mariage, mais aussi, en protestantisme, le pouvoir judiciaire, le pouvoir de trancher tous les conflits, toutes les contestations qui concernent la validité du mariage et qui sont nombreuses à une époque où on divorce très difficilement. Et dans les traditions germaniques, Wittenberg, strasbourgeoise, suisse-alémanique, genevoise, sont créés au XVIe siècle des tribunaux protestants du mariage, les fameux Ehegericht, qui tranchent ces conflits matrimoniaux. C'est un peu le pendant des officialités catholiques. Et ce sont généralement des corps mixtes où siègent à la fois des députés nommés par l'Église et des députés nommés par l'État, par le prince, ces derniers étant majoritaires en protestantisme, à la seule exception de Genève où la majorité des voix revient aux ecclésiastiques. Ceci toutefois, en tradition protestante, ne confère pas aux magistrats l'autorité de célébrer les mariages. Contrairement aux idées reçues, très rares sont les protestants qui ont pensé ou seulement imaginé que la formation du mariage puisse relever de la prérogative du magistrat. À quelques rares exceptions, ce sont les ministres du culte protestants qui reste dépositaire de cette compétence, vivement réaffirmée d'ailleurs dans la période qu'on va voir, celle du désert, laquelle conserve ainsi, à défaut de sacramentalité, une forme de sacralité. Un peu comme cela se passe encore aujourd'hui dans les pays anglo-saxons, protestants, où, vous le savez, le ministre du culte reste aussi encore, et en même temps, l'officier d'état civil. Voilà. Le processus de sécularisation du mariage, c'est-à-dire le transfert progressif de ce qu'on appelle la compétence matrimoniale de l'Église à l'État, c'est quelque chose de beaucoup plus tardif qui remonte dans l'histoire moderne à la deuxième partie du XVIIIe, voire première du XIXe siècle. Cette autorité juridictionnelle n'efface pas non plus l'existence à côté de la loi civile d'un cadre, on pourrait dire, de type constitutionnel, que les églises protestantes appellent indifféremment loi divine, parole de Dieu, ou, dès le XVIIe siècle, loi naturelle, et dont le texte de leur discipline ecclésiastique, comme on l'appelle, veut être l'expression et le garant. D'où l'existence de deux lois du mariage, civile et ecclésiastique, que les protestants n'ont jamais confondues, en tout cas pas avant la Révolution française, et qui, selon les périodes ou les sujets, ont été plus ou moins en porte-à-faux ou en conflit. Comment est-ce que les protestants ont géré ces décalages? Pour répondre, il faut clairement distinguer ce que la loi civile autorise et ce qu'elle impose. Ce qu'elle autorise et ce qu'elle impose. Tout ce que la loi autorise n'est pas obligatoire. Ce n'est donc que dans la catégorie de ce qu'elle impose ou de ce qu'elle interdit, qu'il peut y avoir problème, qu'il peut y avoir conflit ou problème de conscience. Alors, il arrive, premier cas de figure, comme sous le régime de l'édit de Nantes, donc ça nous reporte au XVIIe siècle, avant la révocation, il peut arriver que la loi du prince soit plus restrictive que la loi de l'Église protestante. Et interdisent ce que la doctrine biblique, telle qu'un protestant la comprend, autorise. C'était le cas en particulier, vous le savez, du droit au divorce, qui est restauré sous réserve dans la tradition protestante, par exemple le divorce du conjoint trompé, ou c'est aussi le cas du droit au mariage entre cousins germains, qui est autorisé dans le Pentateuque, dans la Bible, mais qui est interdit dans la loi de l'Occident. En tel cas, pasteurs et synodes exhortent leurs fidèles tout au long du XVIIe siècle à se soumettre de bonne grâce à l'autorité du prince, comme à celle du Seigneur. Obéir au prince comme au Seigneur, fût-ce au prix de douloureux renoncements. Il peut aussi arriver, deuxième cas de figure, et là nous abordons le XVIIIe siècle, que la loi civile étende ses exigences au-delà de ce que la religion tolère ou permet. Sous le régime révocatoire, on finit par soumettre la validité du mariage à des obligations religieuses catholiques que les protestants jugent idolâtres et intolérables. Et c'est ce régime qui va inspirer, après la réorganisation des synodes, des formes d'insoumission et de résistance matrimoniale, de désobéissance civile à grande échelle, en particulier le fameux mariage au désert, qui sera notre sujet. Et enfin, la troisième période, j'anticipe, ce sera après l'édit de tolérance, 1787, changement de régime, qui ouvre la porte à la sécularisation du mariage et qui met les protestants dans une troisième situation où le droit civil devient plus libéral ou plus permissif que le droit ecclésiastique protestant. L'exemple emblématique dont on discute, c'est alors l'union entre l'oncle et sa nièce, que le magistrat peut autoriser mais que le Pentateuque interdit, voire la bigamie, entre guillemets, que le prince aussi peut autoriser mais que le Pentateuque interdit. Alors, revenons à la période intermédiaire qui nous intéresse aujourd'hui, celle du mariage huguenot au désert. Sous le régime révocatoire, le mariage légal, qui n'est plus que le mariage catholique, implique des obligations religieuses que les protestants ont jugées intolérables en conscience. Obligation d'abjuration, obligation de fréquenter la messe catholique, de prendre l'Eucharistie, stigmatisée, vous le savez, par les protestants, comme une maudite idolâtrie. On trouve le terme dans le catéchisme de Heidelberg. De sorte que l'obéissance due à César, de leur point de vue, vient en conflit frontal avec l'obéissance due à Dieu, Actes chapitre 5. Ou bien que l'obéissance au cinquième commandement du Décalogue, envers le roi comme père de la nation, entre en opposition avec l'obéissance due au premier commandement, l'interdiction de rendre un culte aux idoles. Et c'est dans cette situation précise que les Huguenots restés en France, parce qu'un certain nombre sont restés en France, ont développé des formes de résistance matrimoniale et même organisé à grande échelle une véritable désobéissance civile dans la semi-clandestinité qu'on appelle le mariage au désert. Alors, j'ai travaillé sur beaucoup d'archives, j'ai tenté des recensions, c'est très difficile, mais entre 1720, donc c'est déjà tardif, et 1787, on pourrait dénombrer entre 190 000 et 470 000 mariages célébrés au désert dans la plus grande illégalité. L'édit révocatoire, 1685, ne parle pas du mariage. Il est très court, c'est 12 articles, hein, contrairement à l'édit de Nantes. Très court. Il y avait une loi, un décret, trois semaines antérieures à la révocation du 15 septembre 1685, qui légifère sur le mariage des protestants, très mystérieusement. Mais l'édit révocatoire ne parle pas du mariage. Il parle, vous le savez, du culte, l'interdiction du culte public, et il parle surtout des pasteurs qui sont expulsés, qui ont 15 jours pour quitter le territoire du royaume. Donc, si l'édit de Fontainebleau bouleverse les pratiques du mariage chez les protestants, c'est d'abord par l'expulsion et mise hors la loi de tous les pasteurs. C'est la première chose. Et ensuite seulement, au fil de ce long régime interminable, par le développement progressif d'une interprétation restrictive de l'édit de Fontainebleau, qui culmine dans ce qu'on appelle la déclaration de 1724, mais c'est beaucoup plus tard, on est 40 ans plus tard, hein, qui, elle, va formellement interdire et déclarer illégal le mariage protestant. Alors concrètement, sous régime révocatoire, aucun des effets civils du mariage ne sont plus reconnus à ces mariages illégaux. Les époux protestants sont assimilés à des concubins, leurs enfants sont assimilés à des bâtards, et par là sont privés du droit à l'héritage, hein, au profit de qui ? Au profit des collatéraux catholiques, hein, les frères et sœurs des parents qui sont, eux, restés fidèles à la religion catholique. Et là s'exprime une forme particulière d'héroïsme propre aux Huguenots, je crois que c'est unique dans l'histoire du protestantisme, endurer une forme de précarité juridique, accepter que les droits de sa famille ne soient plus assurés, comme prix de sa fidélité au Christ. Comme une fidélité, comme une facette de la croix qu'ils sont appelés à porter dans la spiritualité sacrificielle du désert. Et ces mariages sont non seulement interdits, mais aussi passibles en cas de poursuite des sanctions les plus sévères. Lorsque les époux sont dénoncés, ils sont, dans le meilleur des cas, frappés de fortes amendes pour concubinage notoire, contraints de se séparer, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu un mariage en bonne et due forme des mains du curé, voire des mains de l'évêque du lieu. Et dans le pire des cas, la période la plus difficile pour la persécution, c'est autour de 1750, voyez, on est 70 ans après la révocation. Dans le pire des cas, ils sont frappés des peines les plus lourdes du régime révocatoire. Les époux sont condamnés aux galères jusqu'à ce que mort s'en suive. Les épouses à être rasées et emprisonnées à vie, leurs enfants enlevés, éduqués de force dans des couvents catholiques, et leurs biens saisis pour financer cette éducation et puis renflouer la caisse des conversions. Le tout pour seul crime de mariage non catholique. Tel a été pour de nombreux huguenots le prix du refus des compromissions religieuses qu'exigeait d'eux le nouveau droit du mariage. Le mariage, ainsi, est venu rejoindre l'Eucharistie et le refus de l'abjuration parmi les motifs du martyr huguenot. Ceci dit, nous ne croyons pas dans une vision un peu naïve et idéalisante de l'histoire que tous les huguenots du désert se sont comportés ainsi. Le premier désert, comme on l'appelle, c'est, après la révocation, c'est une forme d'anarchie. C'est une désorganisation totale de l'Église qui est privée brutalement de tous ses bergers. C'est aussi la période, rappelez-vous, du prophétisme sévenol. C'est la période de la guerre des Camisards, une période pour le moins trouble, et qui ne prend fin qu'en 1726, donc 40 ans plus tard, avec la tentative de réorganisation synodale diligentée par Antoine Court. Donc, des pratiques du mariage très diverses, auxquelles les synodes, péniblement, à partir de 1720, vont tenter de remettre de l'ordre. Malgré une seule tentative courageuse, celle de Claude Brousson, qui en 1688, c'est 3 ans après la révocation, écrit, c'est un manuscrit, une extraordinaire lettre pastorale sur les mariages, dans laquelle il tente de donner de réorganiser quelque peu le mariage huguenot. Alors, tels que les synodes les ont jugés a posteriori, on peut classer ces pratiques en 3 catégories que je vous présenterai successivement. Tout d'abord, les pratiques qui sont prohibées par les synodes. Ensuite, celles qui sont tolérées par les synodes. Et enfin, celles qui sont recommandées, voire commandées par les synodes, dont font partie le fameux mariage au désert. Alors, tout d'abord, les pratiques prohibées. Au lendemain de la révocation, la pression exercée sur les protestants de France est telle, pour qu'ils se rallient officiellement à la foi catholique, que qu'innombrables sont les religionnaires qui contractent un mariage qui peut être qualifié de catholique ou de pseudo-catholique. Ils se présentent en masse devant le curé et se soumettent à toutes ces exigences, fût-ce au prix d'abjuration de circonstances et renier ultérieurement, une fois établis les droits du mariage, et confesser dans les assemblées du désert, ensuite, en vue d'une réintégration dans la paix de l'Église protestante, comme on disait autrefois. C'est pour beaucoup un compromis momentané, une sorte de restriction mentale que la conscience huguenote réprouve, mais auquel le harcèlement dont ils sont l'objet contraint tous ceux qui n'ont pas la vocation du martyr. Toute estimation chiffrée est ici impossible, mais le nombre des mariages catholiques ou pseudo-catholiques à l'échelle du royaume est assurément considérable, à la hauteur certainement de celui des abjurations qui sont estimées sur des bases assez fiables, à peu près à 50% des huguenots de France après la révocation. Voilà. Mais la condamnation de la pratique de ce mariage pseudo-catholique est non moins vive et dès les premiers synodes, qui est le 16 mai 1726, premier synode national diligenté par Antoine Court. Je vous lis son article 10. Les pasteurs et les proposants et anciens exhorteront les fidèles de faire bénir leur mariage et administrer le saint baptême de leurs enfants par les pasteurs par nous établis et reconnus, et de n'aller plus vers le prêtre de la communion romaine. Cette communion étant devenue, par les idolâtries et superstitions entièrement antichrétiennes, et étant impossible d'y faire bénir son mariage et baptiser ses enfants sans commettre apostasie, renier Jésus-Christ et consacrer les enfants à l'idole. Et ceux qui dorénavant se porteront à de si criminelles lâchetés seront censurés publiquement et privés de la communion, donc excommuniés. 16 mai 1726, premier synode national du désert. Vous voyez qu'on fait pas, on ne fait pas dans la dentelle. Voilà. Le clergé catholique lui-même s'alarme de cette brusque extension de pseudo-catholicité. On est aussi dans une période où monte le jansénisme, à qui ce double jeu ne convient pas. On parle de profanation des sacrements, et ça déplaît beaucoup au jansénisme. D'où la soumission des nouveaux catholiques, comme on appelle tous ces protestants qui sont retournés au catholicisme d'apparence, la soumission des nouveaux catholiques candidats au mariage à des épreuves de catholicité de plus en plus exigeantes, faites pour traquer le crypto-protestantisme, comme on l'appelle, rampant. Période d'instruction catholique obligatoire, astreinte à une participation régulière à la messe paroissiale de 3 mois, 6, puis 12 mois, signature d'un formulaire d'abjuration en bonne et due forme, billet de confession, etc., etc., rien n'y fait. La plupart du temps, les époux ne mettent plus les pieds à l'Église catholique une fois le mariage conclu, s'exposant ainsi aux poursuites contre les relapses. Alors, pour atténuer les conflits de conscience que pose le mariage pseudo-catholique, de très nombreux protestants, et toute la bourgeoisie en particulier, citadine, sollicitent les services d'un prêtre qu'on va qualifié d'accommodant ou de prêtre commode. Le prêtre commode. C'est-à-dire disposé à marier les époux non catholiques sans les interroger sur leurs convictions religieuses, ni exiger d'eux qu'ils prennent l'Eucharistie ou abjurent leur protestantisme. Alors, le prêtre accommodant, ce n'est pas un faux prêtre, comme il peut en exister un certain nombre au XVIIIe siècle. Mais c'est un prêtre régulier qui pratique avant l'heure ce qui deviendra le système Robert Joly de Fleury et qu'on retrouve dans l'édit de tolérance, à savoir une dissociation dans l'acte du prêtre entre la qualité du prêtre et celle de l'officier d'état civil. Alors, c'est aussi une désobéissance par rapport à la hiérarchie catholique, qui est parfois le fait de prêtres tolérants, je dirais, on dirait libéraux aujourd'hui, qui désapprouvent la sévérité catholique envers les protestants. Mais le motif le plus répandu, c'est la vénalité, c'est l'argent. Certains protestants, en particulier dans la bourgeoisie, étant prêts à payer très cher ce type de service. C'est aussi à cette omission des questions religieuses s'ajoute aussi chez certains curés accommodants une infraction à la règle du propre curé, le parochus proprius. On avait l'obligation d'aller se faire marier devant le curé de son domicile. D'où le développement d'un véritable tourisme et commerce matrimonial à l'échelle du royaume. Les aumôniers militaires aussi dans les garnisons figurent en bonne place au rang des prêtres accommodants. Pourquoi ? Ce sont des ecclésiastiques de passage qui peuvent être sollicités sans avoir sur les individus toutes les informations du parochus proprius et auxquelles il est donc facile de dissimuler un particularisme religieux. Les synodes s'appliquent aussi à condamner une pratique qu'on appelle le mariage par promesse de futur. Alors, c'est un peu énigmatique pour nous. De quoi s'agit-il ? Le mariage par promesse de futur, c'est une pratique de notaire. C'est une invention de notaire protestant qui consiste à inclure dans le contrat de mariage une promesse de pure forme dans laquelle les époux déclarent, c'est dans le contrat, l'intention de faire bénir leur union dans la Sainte Mère, l'Église catholique, apostolique et romaine. Déclaration sur le contrat, qui naturellement n'est pas suivi des faits. Et en cas de poursuite, l'inexécution du contrat pourrait certes être reprochée aux époux, mais le contenu du contrat prouverait que son objet était bien la conclusion d'un mariage catholique. Donc c'est un mariage qui peut, dans le pire des cas, appeler à une régularisation, mais qui ne pourrait pas être invalidé au motif qu'il ne serait pas catholique. Voilà, ça c'était l'invention des notaires protestants. Parmi les subterfuges matrimoniaux condamnés par les synodes figure aussi la pratique de la double bénédiction nuptiale, qui consiste à contracter d'abord un mariage pseudo-catholique devant le prêtre pour satisfaire la loi, et ensuite a sollicité une seconde bénédiction du pasteur protestant au désert pour satisfaire sa conscience. Donc je vous ai dit qu'après la révocation, il y a beaucoup de protestants qui viennent confesser leur abjuration de l'assemblée du désert, demander pardon et demander leur réintégration dans la paix de l'Église. Mais autre chose est la démarche de la double bénédiction. C'est l'organisation délibérée d'une double cérémonie qui heurte l'esprit du désert, auquel répugne tout ce qui ressemble à un double jeu, ou table sur un divorce entre la pensée et le discours, entre l'être et le paraître. François Turretin, théologien genevois, dans un sermon, réprimande, je cite, « ceux qui incitent les Huguenots à rester en France et à se soumettre apparemment aux exigences papistes, tout en restant sincèrement réformés en leur for intérieur ». Il souligne la gravité d'une attitude séparant dangereusement croyance et confession de foi, ou une dissimulation et hypocrisie criminelle, faisant semblant de croire ce qu'il ne croit pas et de ne pas croire ce qu'il croit en refusant de le confesser. » Fin de citation. Ensuite, une autre bizarrerie inventée au XVIIIe siècle, c'est ce qu'on appelle le mariage à la Gaulmine. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est le mariage à la Gaulmine? C'est la dernière variante du mariage pseudo-catholique. Gilbert Gaulmin, c'est un doyen des maîtres de requête qui, pendant la Fronde, au siècle précédent, avait défié l'autorité de l'autel qui lui refusait la bénédiction nuptiale au motif d'une trop grande différence d'âge avec sa fiancée, en se mariant par un simple contrat notarial qu'il s'était ensuite contenté de faire notifier au curé. Voilà, ça c'est la fronde de Gaulmin. Alors, qu'est-ce que le mariage à la Gaulmine? Les historiens varient dans leur définition de cette affaire. Voilà. Ça va de la simple notification au curé d'un mariage de type civil à la mise sur pied de véritables guet-apens obligeant le prêtre, parfois ligoté sur une chaise, ici devant moi, obligeant le prêtre ligoté à être témoin malgré lui de l'échange des consentements entre deux protestants, au motif que cette pratique suffit pour satisfaire les exigences du Concile de Trente, 1563, qui stipulait que pour être valide, il fallait que le mariage soit célébré devant le curé qui en est témoin. Donc la seule présence du curé ligoté pouvait suffire juridiquement à valider le mariage. Voilà, ça c'est le mariage à la Gaulmine. Voilà, donc toutes ces formes de mariage pseudo-catholique, hein, accommodées par promesse de futur, double bénédiction à la Gaulmine, ont en commun de rechercher la conclusion d'un mariage légal, donc un mariage catholique, mais qui n'est de catholique que la forme. Et ce sont cinq manières de se marier qui ont été réprouvées, condamnées comme des trahisons par les premiers synodes du désert et lourdement sanctionnées. Et c'est visiblement la grande tentation du siècle, si l'on en juge par le nombre très important de délibérations dans lesquelles les synodes du désert en censurent la pratique. 31 délibérations sur les 413 que j'ai pu recenser pour le XVIIIe siècle. Et puis, les rigueurs de la discipline frappent aussi les parents des époux de ceux qui recourent aux prêtres. C'est une époque où il n'y a pas de mariage sans consentement parental. Donc, les parents sont co-responsables de l'union catholique de leurs enfants, et les parents, autant que leurs enfants, sont excommuniés par les synodes. De surcroît, il est interdit aux proches des époux d'être présents lors de la cérémonie catholique, à laquelle nul ne peut assister sans se polluer. Synode national de 1740. Aux parents, amis, voisins, les synodes interdisent de participer au banquet qui se fait ordinairement à ces noces et défendent de faire les visites d'usage au domicile des époux. Il y a même un synode, Ballanguedoc 1748, qui veut porter les poursuites au-delà des frontières, mais écrit, on est dans le siècle de l'Exode, hein, vous le savez, et du refuge, qui écrit aux églises du refuge pour leur demander de ne pas recevoir les réfugiés sans attestation car nombreux sont ceux qui ont fait bénir leur mariage en l'Église romaine. Alors, parmi les pratiques prohibées, il faut dire un mot maintenant du concubinage protestant, hein, qui est un sujet intéressant et important du XVIIIe siècle. Le concubinage, ou bien les adouages, comme on disait dans la région de Saintes. La question est évidemment très ambiguë parce que les mariages protestants sont effectivement juridiquement considérés par la justice comme des concubinages notoires, mais les protestants et les synodes se sont défendus de cette accusation en faisant de subtiles distinctions. Alors sur ce point, la reprise en main aussi des synodes est musclée. Antoine Court, par exemple, dans Le Patriote français et impartial, on est dans 1751, écrit ceci à un ministre de Louis XV. Quelque favorable que votre grandeur suppose l'huguenotisme au vice, il n'est point d'huguenot qui se résolut à vivre dans cet état, le concubinage, qui ne fût aussitôt décrié dans son parti et poursuivi par ses lois ecclésiastiques. Il n'a qu'à jeter les yeux sur leur discipline et sur leurs pratiques. L'une est toute hérissée de canons contre les vices, et l'autre n'est qu'un tissu de sévérité qui n'a pas même épargné en certains temps les têtes couronnées. Alors en réalité, sous le terme adouage ou concubinage protestant, on retrouve toutes sortes de pratiques. On peut trouver des unions qui, dans leur nature, auraient été parfaitement régulières aux yeux de l'Église, mais auxquelles celle-ci ne reproche que l'absence de célébration. Il leur manque le courage et l'héroïsme des Huguenots face aux nouvelles contraintes légales. On leur reproche la peur des représailles. Mais les adouages huguenots recoupent aussi toutes les unions conjugales que la discipline de l'Église aurait interdites en tant ordinaire. Et que l'anarchie du désert autorise. Par exemple, les unions mixtes, les secondes unions après séparation coupable, les unions dans les degrés de parenté prohibés, ou celles qui sont conclues à l'encontre du consentement des parents, qui restait dans la pensée protestante une condition de validité du mariage. La désorganisation ou la forme d'anarchie ecclésiastique de la période, rappelez-vous, c'est aussi celle des inspirations cévenoles, hein, permet en réalité à toutes les unions non conformistes, celles que la discipline de l'Église en temps ordinaire aurait réprimées, de se contracter dans les espaces flous du non-droit. Alors la condamnation des synodes ici est sans appel, elle s'inscrit déjà dans la vieille discipline ecclésiastique héritée du XVIIe siècle, chapitre 13 sur les mariages, article 25, et puis au XVIIIe siècle, à 11 reprises, les synodes de la réorganisation jugent la cohabitation, je cite, « contraire aux déclarations de l'Évangile, aux lois civiles et à celles de la discipline ». Et outre leur censure, les synodes appliquent à ces formes d'union différentes sanctions qui vont du refus de la bénédiction nuptiale à l'exigence d'une séparation de 6 semaines avant publication ecclésiastique des bans et bénédiction en bonne et due forme, sous peine d'excommunication. Il reste combien de temps ?
15 minutes.
Ouais. Alors, après les pratiques prohibées, je vous en ai fait la liste, les pratiques tolérées, il faut que j'aille un peu plus rapidement, c'est par exemple les mariages bénis par les prédicants et par les anciens. Puisque, vous savez, il n'y a plus de corps pastoral, ouais, pratiquement présent au XVIIIe siècle. Voilà. Ce sont des pratiques qui seront désapprouvées par les synodes de la réorganisation, mais qui ne seront jamais condamnées dans l'esprit de ce qui était celui de la tolérance des ce qu'on appelle les mariages de conscience dans la première période du protestantisme, c'est-à-dire entre 1540 et 1570, c'est la première génération protestante, avant qu'il y ait en France ce qu'on appelait des églises dressées. Là, il y avait ce qu'on appelait les mariages de conscience, que l'Église n'a jamais condamné, eu égard à la rudesse des temps. C'était l'expression des synodes, eu égard à la rudesse des temps. Voilà. Mais on connaît relativement peu de témoignages de cette pratique, donc mariage béni par prédicant ou par ancien. L'exception semble être la Normandie. Léonard signale une pratique largement répandue, notamment par un prédicant du nom de Pierre Morin, dit Lépine, en Normandie, jusqu'en 1759. Ou bien Claude Brousson lui-même, qui est resté prédicant jusqu'en 1694 et qui aurait, je cite, couru le pays en tournée de mariage et de baptême au risque de la prison et de l'échafaud. Voilà. Toujours est-il que l'intervention des anciens et des prédicants dans les mariages est un usage que la restauration du ministère pastoral, diligentée par Antoine Court, cherche à faire disparaître. Voilà. Il sera fait interdiction aux prédicants de bénir les mariages. Les contrevenants seront excommuniés, c'est une note du Vivarais de 1734. Et en Normandie, 30 ans après Lépine, en 1772, le pasteur Lacombe déplore encore la résistance au retour à la bénédiction pastorale qui s'exprime dans cette contrée. Un mot sur le mariage patriarcal. Dans les campagnes, parmi les classes populaires, se pratique chez les Huguenots un mariage dit, l'expression est très belle, sous le manteau de la cheminée. Le mariage sous le manteau de la cheminée, qui, en situation de persécution, est souvent solidaire du repli sur le culte domestique, le culte des familles et le culte des maisons. C'est une union de fait, tout juste bénie par le père ou par l'aïeul. Je vous ai dit que les premiers protestants ont défini le mariage comme un acte politique, reconnu par l'autorité sociale en place. Ainsi, lorsque leur mariage est frappé d'interdiction légale, c'est un peu une épreuve hein, pour la doctrine protestante du mariage, il n'est guère surprenant que ce soit l'autorité du père de famille qui soit considérée par les protestants comme autorité sociale de substitution. On fait une interprétation extensive du décalogue « Honore ton père et ta mère », qui concerne autant le père de famille que le père de la nation, le roi, qui est aussi appelé le père. Le père de la patrie. Et puis, il y a l'exemple du mariage des patriarches dans la Bible, qui joue un très grand rôle chez les Huguenots. Le rapport à l'Ancien Testament est toujours très, très particulier, auquel les protestants du désert s'identifient étroitement, hein, le mariage d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, etc. On trouve aussi chez les protestants de la réforme radicale, par exemple chez les anabaptistes, un attachement à ce mariage patriarcal qui se maintiendra bien au-delà de la période d'exception du désert. C'est le cas notamment, selon Léonard, chez les inspirés du Bas-Languedoc, en Vonnage, dans des groupes d'inspirés qui restent attachés aux Quakers de Londres jusqu'en 1787. Ou bien de diverses communautés de sensibilité anabaptiste, mennonite, voire amish, qui n'admettent pas d'être mariés par l'entremise d'un pasteur ni d'un magistrat, et qui ne veulent l'être que par l'autorité du père de famille, du patriarche. Voilà. Si ce mariage est toléré par les synodes, ce n'est que de façon circonstancielle, à cause de la dureté des temps et l'absence de pasteur. Mais cette pratique doit cesser hein, dès la réorganisation du mariage au désert. Ensuite, les pratiques encouragées, voire les pratiques commandées. Toutes revendiquent une haute idée de la religion, à laquelle répugne toute forme de compromission, fût-elle de pur fond. Et sont sévèrement critiqués ici tous les nicodémismes, tous les faux-semblants, tout ce qui joue sur une ambiguïté de la forme et du fond, des actes et de la pensée. Et on prône une spiritualité sacrificielle, celle du martyr. Alors, en bref, les synodes font obligation soit de renoncer au mariage, aux jeunes huguenots, soit de se marier à l'étranger, soit de se résigner à se marier au désert, c'est-à-dire d'une manière qui ne procure pas à l'union la sécurité et la protection du droit. Alors, premier comportement, renoncer au mariage. Claude Brousson constate, à la même date, qu'une infinité de mariages sont suspendus parce que les réformés ne peuvent se marier sans blesser leur conscience. Une supplique adressée à Louis XV en 1745. Le synode national déplore que les ecclésiastiques catholiques tâchent, contre l'intérêt de l'État, de faire défaillir la race des religionnaires du royaume par un moyen à peu près semblable à celui que les Égyptiens imaginèrent pour atteindre celui des Israélites. Vous rappelez l'histoire. Hein. Encore une fois, identification au Pentateuque. Hein. Voilà. Et qu'elle force les uns à renoncer au mariage et les autres à le différer. Autre pratique encouragée, le mariage à l'étranger. Pour les premiers synodes de 1726, la seule façon, je dirais, satisfaisante de se marier de façon légale, sans renier sa religion, c'est de se marier à l'étranger. Voilà. Donc, il s'agit de protestants qui vont passer la frontière sous un prétexte quelconque, le plus souvent professionnel ou commercial, pour solliciter en terre protestante une bénédiction pastorale dont ils puissent ensuite ramener en France un certificat et dont ils espèrent la valeur non contestable. Alors, sont largement sollicités à ce titre les pasteurs des églises protestantes des zones frontalières, ceux de Genève et de Nyon pour la Suisse, ceux de Tournai, ceux des églises limitrophes de la Barrière en Belgique. Dans les territoires réputés étrangers, sont aussi sollicités en Alsace et dans le pays de Montbéliard les pasteurs protestants qui ont pu rester en fonction et les aumôniers militaires de confession protestante, luthérienne et réformée, notamment ceux des garnisons hollandaises des villes de la Barrière. Et puis, chose surprenante, le savez-vous, joue un rôle essentiel ici les chapelles des ambassades des États protestants à Paris. Les chapelles des ambassades des pays protestants, ambassades de Suède, du Danemark, de l'Angleterre et surtout de la Hollande, qui joue un rôle essentiel au XVIIIe siècle. Et là, on bénit par milliers, on peut consulter aujourd'hui ces archives à Paris, par dizaines de milliers, on bénit à Paris, au cœur de Paris, des unions protestantes qui reçoivent ainsi la forme de légalité que permet l'extraterritorialité des ambassades. Voilà. Alors, cette pratique, je passe, sera réprimée très, très brutalement par l'évolution de la législation. Cette pratique va être interdite, frappée d'illégalité, frappée de sanctions, frappée de poursuites. J'en viens au mariage au désert. Ça, c'est la liturgie. On passe. Alors, qu'est-ce que le mariage au désert? Je vais essayer de vous le décrire. Quelle est la procédure qu'on appelle le mariage au désert? C'est quelque chose de très précis. La formation suit trois étapes distinctes, qui formellement se distinguent assez peu des procédures imposées par le droit civil et catholique. Ce n'est pas une différence de forme, c'est qu'une différence de contenu. Les futurs époux protestants, ainsi que leurs familles, dont le consentement, je vous rappelle, est obligatoire, signent tout d'abord devant notaire un contrat de mariage, que certaines églises voudraient rendre obligatoire dans certains synodes, afin d'éviter l'engagement de la procédure à la légère. Donc, première étape, signer un contrat de mariage. Mais ce contrat signé ne vaut pas mariage. Et ceux qui ont eu la hardiesse de le prétendre, de se croire mariés par ce contrat, ont été vertement repris par les synodes et taxés de concubinaires. Hein, ce contrat n'a que valeur de projet. Ensuite, ce projet de mariage est porté à la connaissance des anciens de l'Église, dont sont membres les fiancés. Le consistoire diligente une enquête de moralité. Le projet de mariage est annoncé publiquement, c'est la publication des bans, à l'occasion des assemblées dominicales des trois dimanches consécutifs. Hein. La publication des bans sous l'ancien régime ne se faisait pas sous le pilier public, mais se faisait au prône. C'est une annonce qui se faisait en chaire, trois dimanches consécutifs. On annonce le projet de mariage et on récolte les oppositions éventuelles qui sont enregistrées et examinées par les anciens, par le consistoire. Lequel consistoire délivre en fin d'examen un certificat de publication des bans et de non-opposition. C'est très organisé. Hein. C'est clandestin, mais c'est très organisé. Si les futurs époux sont membres de deux assemblées différentes, s'ils habitent à 3 jours de cheval l'un de l'autre, hein, les informations circulent mal, ou si l'un d'eux a déménagé durant l'année qui précède la publication des banques, que fait-on? L'enquête publique est menée parallèlement par les deux consistoires. Et celui qui est le plus éloigné produit ce qu'on appelle une commission rogatoire, c'est un certificat de publication des banques sans opposition de la partie la plus éloignée. Prouver qu'il n'est pas déjà marié dans son village, très concrètement. Voilà. Voilà. Et les deux certificats réunis, tout pasteur légitime consacré peut procéder à la célébration publique du mariage dans le cadre de l'assemblée dominicale. Puis, dernier acte, on fait l'inscription sur les fameux registres du désert, registre BMS, c'est très important, je pourrais en parler pendant une heure si vous aviez le temps, les fameux registres pastoraux du désert. Suite de quoi, le mariage est considéré comme conclu et le contrat notarial exécutoire sous la seule réserve de la consommation de l'union. L'idée d'une célébration privée est généralement très mal vue et refusée. À la question de savoir, je cite, si l'on peut bénir le mariage dans la maison d'une personne malade de maladie qui l'empêche de marcher, le synode a fait cette réponse qui est longtemps restée dans les mémoires, je cite, s'il ne peut aller à l'église, qu'il s'y fasse porter. Voilà. Il ne s'agit pas de se marier à la maison. Le mariage est public ou il n'est pas. Ce qui serait une célébration privée du mariage au XVIIIe siècle, c'est un mariage en déshonneur. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un problème de moralité, par exemple une cohabitation, par exemple, avant l'union, dans ce cas-là, il pourrait y avoir effectivement une célébration privée. Enfin, suit la plupart du temps un banquet et une fête familiale auxquelles pasteurs et synodes reprochent d'enfreindre les règles du respect du dimanche. Rappelez-vous, la célébration a lieu dans le culte dominical, donc la fête aussi. Donc, on reproche à ces fêtes de ne pas respecter le jour du Seigneur. On n'aime pas la danse. Hein, la danse qui se vit souvent dans ces fêtes, ces noces de campagne, les pasteurs et les synodes réprouvent la pratique de la danse. Le rôle des pasteurs et des anciens est très bien défini dans cette organisation clandestine. Seul le pasteur consacré est habilité à célébrer le mariage, et le conseil des anciens, le consistoire, à diligenter l'enquête publique, recevoir et traiter les oppositions, puis transmettre au pasteur les demandes qui ont été agréées. Rappelez-vous, les anciens sont des locaux, alors que les pasteurs, à cette époque, sont des itinérants. Les pasteurs sont des itinérants, et il arrive à certains pasteurs de bénir, lors d'une même assemblée dominicale, le dimanche, un même culte, plus d'une vingtaine de mariages. Donc c'est lorsque le pasteur passe, une fois toutes les 3 semaines, qu'il bénit les mariages qui ont été préparés et agréés par le consistoire dans la période intermédiaire. Voilà, ce mariage a été inventé par une poignée de députés synodaux le 16 mai 1726 dans une vallée du Vivarais. Et puis il s'est finalement étendu à l'ensemble du protestantisme français au fur et à mesure du rattachement des églises de France à l'organisation synodale d'Antoine Court, assez tardivement, jusque dans les années 1770 pour les plus rétives. Donc une réorganisation très progressive, avec des foyers de résistance, comme la Normandie, qui a toujours tenu tête au synode, les protestants normands. Et les grands absents, c'est la bourgeoisie protestante, la bourgeoisie citadine, qui n'a jamais reconnu non plus l'autorité des synodes, et qui a préféré le mariage pseudo-catholique. Et puis, les protestants de Paris manquent à l'appel aussi, qui ne seront constitués en église que en 1788, à l'aube de la Révolution. Les historiens s'accordent néanmoins pour dire que le mariage au désert devient la manière ordinaire de se marier parmi les protestants de France dans les 20 années qui précèdent l'édit de tolérance. Si vous voulez, dès l'instant où, où l'évolution de la jurisprudence pénale a supprimé les risques de poursuite, et vous savez que Calas, 1762, c'est le dernier grand martyr hein, protestant du 18e, donc après 1762, dès l'instant où, quelque part, les protestants sont dans le non-droit mais n'encourent plus de poursuite pour crimes de mariage non catholique, la plupart des protestants adoptent massivement cette pratique du mariage au désert qui entre dans leur culture, prend place parmi les traditions constitutives de leur identité. Voilà ce que j'avais à dire pour le 18e. J'aurais aussi voulu parler de l'édit de tolérance et de la suite, mais on n'a peut-être pas le temps.
Merci, Michel. Bien, alors, merci, Michel, pour ce rappel des fondements théologiques du mariage réformé au XVIe siècle, qui distingue, tu l'as bien souligné, la sacramentalité de la sacralité et qui balaye cette sacramentalité développée largement hein, par l'Église catholique. Et puis, tu as rappelé aussi et montré comment, finalement, ce mariage épouse, si j'ose dire, différentes formes, sous le temps du désert, à partir de 1685, des mariages plus ou moins tolérés, des mariages qui sont condamnés par les synodes, notamment ce qu'on pourrait appeler ces sortes de mariages nicodémites. Et ensuite, pour terminer avec ce fameux mariage au désert, une question me vient en t'écoutant, évidemment, c'est que tu soulignes en conclusion, alors on n'a pas abordé 1787, travaux Saint-Étienne, on va en parler, je pense, mais tu soulignes en conclusion, quand même, que finalement, il faut attendre les années 1760, 1762, pour que ce mariage au désert, qui est très, très systématiquement défini hein, par le synode, de mai 1726 se mettent en place. Est-ce que finalement le mariage au désert protestant c'est pas l'ensemble des autres pratiques je ne sais pas si tu comprends ce que
oui,
je veux dire
oui.
Est-ce qu'on peut parler de mariage au désert véritablement quand on sait que le mariage au désert tel qu'il est défini par le synode de mai justement ne se met en place que véritablement 40 ans après. Alors, je ne sais pas si tu as des statistiques à nous donner, si tu as pu quantifier justement ces mariages interdits, ces mariages nicodémites et ainsi de suite, mais on a le sentiment en t'écoutant que le mariage au désert tel qu'il est pratiqué véritablement c'est justement tout le reste des autres mariages et pas celui qui est défini par le synode.
Oui.
Et puis après, on laissera la...
Oui, alors effectivement, une des pages que j'ai sautée voulait expliquer ce point-là, à savoir qu'on peut donner à l'expression « mariage au désert » un sens étroit ou un sens large. On le trouve chez les auteurs sous le sens A ou le sens B. Soit le mariage au désert désigne l'ensemble des pratiques protestantes du siècle de la révocation de l'édit de Nantes, c'est 102 ans, donc de 1685 jusqu'à 1787, édit de tolérance. Donc les pratiques protestantes pendant ce deux 102 ans, dans toute leur diversité, et je vous ai donné un petit peu le panel. Mais ensuite, lorsqu'on parle du mariage au désert, à partir on parle d'une pratique très précise qui est la manière de se marier ordonnée par les synodes de la réorganisation. Et c'est dans ce sens que par exemple, Rabot Saint-Étienne utilise le terme.
Plus le micro.
Oui.
Est-ce que tu peux, tu as quelques statistiques en tête?
Non, alors vous savez, en tout cas, pour la première période, c'est une période extrêmement difficile pour les historiens. C'est 40 ans après la révocation, c'est le désordre, c'est l'anarchie, c'est la persécution, c'est la destruction des archives. C'est extrêmement difficile d'avoir des données chiffrées. Pour les mariages au désert qui sont enregistrés dans les registres des pastoraux, registres BMS, là, on a dans les archives de France, dans les archives départementales un peu dispersées, on a 750 registres BMS du désert, mais qui sont très partiels. Ce sont des registres qui suivaient le ministère des pasteurs et non pas des églises, comme aujourd'hui. Par exemple, on voit aux archives départementales du Gard à Nîmes, on voit les registres BMS de Paul Rabot. Alors, c'est 17 volumes, comme ça, qui sont les registres pastoraux de Paul Rabot, donc, qui ont suivi son ministère, du début jusqu'à la fin. c'est pas par paroisse, mais tout ça est très partiel. On peut avoir des informations de ce qui se passe dans un village ou dans le ministère de Paul Rabault et n'avoir aucune information sur les actes pastoraux faits par le pasteur du village d'à côté, tout simplement parce que les archives ont disparu. Donc il n'y a pas moyen de faire quelque chose de précis. Après l'édit de tolérance de 1787, pour résumer, l'édit de tolérance, dans son article 17, rend légale une manière de se marier qui n'est pas catholique. C'est ça la révolution de l'édit de tolérance. Donc, qui se fait devant le magistrat civil, c'est le premier acte de la sécularisation du mariage, qui sera ensuite imposé à l'ensemble des Français et des sujets du roi par le mariage civil sous la Révolution entre 1791 et 1792. Mais cette première sécularisation, ce proto-seuil de sécularisation, c'est le mariage protestant, le mariage non catholique, en 1787. Le baron de Breteuil et Malesherbes, qui sont les grands ministres de Louis XVI, qui ont mené à bien ce projet pendant 3 ans, avec les conseils précisément de Rabault et Saint-Étienne, qui étaient un peu leurs conseillers protestants, refusent absolument l'option qui consisterait à reconnaître les registres du désert, précisément. C'eût été la façon la plus simple de faire. Si l'État français avait voulu reconnaître en 1787 les registres du désert qui ont été scrupuleusement conservés, scrupuleusement soignés, mis en forme, dans les formes réglementaires stipulées pour les registres légaux, de façon à ce qu'ils puissent être reconnus, s'il avait fait ce choix, la partie aurait été facile, mais il a refusé cette option. Parce que c'eût été reconnaître la validité légale des actes des pasteurs et de l'Église protestante, qui n'a plus d'existence légale depuis la révocation. Donc cette option a été écartée, et donc on a au contraire décrété que pendant l'espace de 1 année, c'était ensuite allongé à 2 puis à 3 ans, mais d'abord 1 année, tous les protestants de France devaient faire des déclarations, on appelle ça des réhabilitations de mariage, se rendre devant le jugement et faire des déclarations officielles qui concernent leur mariage, leurs enfants, leur filiation, et donc de reconstituer un état civil protestant, celui qui a manqué pendant 102 ans. Alors là, on a des registres, on a beaucoup plus de registres de réhabilitation qu'on a de registres BMS de pasteurs, mais toutefois, ça reste incomplet au niveau de la France. Donc on a là aussi que des données qui sont fragmentaires, qui sont parcellaires. Tout chiffre est très difficile à avancer.
Merci pour ces précisions. Alors, des questions ? Oui, monsieur.
Est-ce qu'on pourrait avoir une petite idée en 1685 du pourcentage de la population protestante en France ?
Est-ce qu'on pourrait avoir une petite idée en 1685 du pourcentage de la population protestante en France ? Je répète parce que c'est
oui, l'enregistrement. Oui. D'accord. Oui, alors, j'aurais envie de dire 3%, mais il fallait que je trouve une manière de répondre un peu plus précise et un peu plus documentée. Mais je pense que c'est dans entre 3 et 5% de la population que doit se situer la fourchette. Une population qui n'est pas très, très importante. Hein. Du temps de la... Avant la Révolution française, on compte qu'il y a 20 millions de Français en France. Donc à la fin de la période, il y a 20 millions de Français. Et la Baumel, Rabault-Saint-Étienne, qui envoie à l'État des mémoires... et des placés pour essayer de faire reconnaître la réalité protestante, parle entre 1 million et 2,5 millions de protestants sur 20 millions. Alors, faites le calcul, vous vérifierez si ma proportion est juste. Mais on ne sait pas trop si ce sont des chiffres qui sont réels, certains historiens le mettent en question, ou si ce sont des chiffres volontairement gonflés pour les besoins d'une argumentation. Vous voyez ce que je veux dire ?
D'autres questions ? La première journée chaude de ce printemps. Je vois que vous êtes assommé par la chaleur.
Ce qui est, si je peux dire un mot sur la troisième période, ce qui est tout à fait intéressant dans la troisième période, c'est que tout à coup, il y a sécularisation du mariage protestant, et donc le droit du mariage devient plus libéral, plus permissif que ne l'est le droit protestant. Donc, par loyauté envers le prince, tous les pasteurs vont s'interdire de bénir un mariage dans l'Église qui n'ait été préalablement validé par le magistrat, mais tout ce que le magistrat valide ou légalise comme mariage ne va pas être automatiquement béni dans les églises protestantes. Et les synodes vont décider de maintenir tout le processus disciplinaire que je vous ai décrit, qui pourrait ne plus avoir de raison d'être après 1787, va être maintenu au-delà de l'édit de tolérance, de façon à mener une sorte de double enquête de moralité, et vont beaucoup discuter sur l'ordre qu'il faut avoir entre la célébration religieuse du mariage et son enregistrement civil, et son enregistrement légal. Est-ce que la bénédiction doit précéder l'enregistrement légal ou l'enregistrement précéder la célébration ? Nous sommes, nous, depuis la Révolution, habitués à la règle de l'antériorité obligatoire du mariage civil sur la bénédiction religieuse. Mais ceci ne date que du Code civil de Portalis, après la Révolution, de 1904, et n'était pas le cas sous la Révolution, n'était pas le cas avant la Révolution. Et les synodes protestants de la fin de l'Ancien Régime se battent pour maintenir l'obligation morale pour les protestants de faire bénir leur union par le pasteur avant d'aller la déclarer au magistrat pour lui donner une reconnaissance juridique. C'est une manière de faire prévaloir le droit protestant sur le droit civil. Et autant, je n'ai pas le temps d'en parler, mais autant les protestants se sont battus sur le front du catholicisme pour marquer leur différence, autant ils vont se battre dans les quelques années qui séparent l'édit de tolérance de la Révolution française, ils vont se battre sur le front de la sécularisation, pour empêcher la sécularisation du mariage protestant et faire en sorte que la discipline ecclésiastique du mariage soit maintenue dans les églises du royaume. Il y a un pasteur très important qui s'appelle pasteur G de Sainte-Foy-la-Grande, dont j'ai exhumé quelques lettres extraordinaires, qui plaident en disant il ne faut pas démoraliser le mariage en voulant le civiliser. Il ne faut pas le démoraliser en voulant le civiliser. Voilà. Il ne faudrait pas que nos églises... il compare le XVIIIe siècle à une tempête et il dit il ne faudrait pas que nos églises échouent au moment où elles vont arriver au port, avant d'entrer dans le port. Au moment où elles vont être libérées de 102 ans d'oppression, il ne faudrait pas qu'à ce moment-là, elles échouent avant d'entrer dans le port par une sécularisation du mariage qui en ôterait toute la substance.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Tu as évoqué la radicalité de la position disciplinaire des protestants pendant le désert, qui a évoqué la radicalité aussi de certaines positions minoritaires au sein du protestantisme, comme les anabaptistes, les amish. Est-ce que tu connais, ou les quakers, est-ce que tu connais d'autres exemples en Europe de ce genre de positionnement ? Je pense à des puritains, par exemple, qui ont été exclus aussi, qui ont été marginalisés en Angleterre. Il y a des groupes comme ça qui sont aussi minoritaires dans des pays protestants, majorité protestante.
Oui.
Ou alors, inversement, quel a été le positionnement des catholiques, par exemple, sous majorité protestante en Angleterre ou en Hollande ?
Tu veux répéter la dernière question ?
Le positionnement des catholiques quand ils sont minoritaires, par exemple en Angleterre, sous autorité protestante.
Oui. J'ai nommé tous les groupes religieux protestants un peu radicaux ou marginaux qui, à ma connaissance, ont pratiqué le mariage patriarcal. Ceci dit, ces groupes sont dispersés, ne sont pas spécialement français, donc sont dispersés un peu partout dans le monde. J'ai parlé des Amish, par exemple. Il est clair qu'on en trouve davantage aux États-Unis que sur le continent européen. Les puritains, je n'ai pas connaissance de cette pratique. Et tout ce que j'ai pu lire sur les premières communautés américaines, c'était plutôt un mariage civil. Il y a même des auteurs qui soutiennent la thèse selon laquelle les puritains américains, sur sol américain, auraient été les premiers à inventer le mariage civil, tel que nous le connaissons aujourd'hui, 20 ans avant la Révolution française. Donc c'est plutôt cette pratique qui prévaut. Alors maintenant, effectivement, dans les terres protestantes, c'est-à-dire les pays européens, la Suisse, l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre, qui sont des pays à majorité protestante dès le XVIIe siècle, voire XVIe, voilà, se pose la question, ils sont dans la position de la religion dominante, la religion d'État majoritaire, donc voilà, comment est-ce qu'ils vont régler le problème des citoyens non protestants dans ces pays protestants? Est-ce qu'ils vont être, à leur égard, les précurseurs de la tolérance civile? Alors, il est difficile de répondre oui. Je l'ai dit hier dans une conférence à Aix, le discours des protestants sur la tolérance civile, c'est-à-dire que de tolérer que dans l'espace public, l'espace civil, quelque part, on puisse avoir un statut de citoyen qui soit indépendant de son appartenance à la religion, de sa confession de foi, de sa pratique religieuse, cette conviction-là, ce discours-là, c'est un discours qui vient de protestants qui ont été persécutés, protestants minoritaires. Le cas de la France est très, très parlant, très criant. Voilà, c'est un discours pour créer un espace public dans lequel les minorités religieuses, dont font partie les protestants, puissent trouver un espace de paix et de vie. Voilà. Mais quand les protestants ont été en position de religion majoritaire et religion d'État dans les XVIe et XVIIe siècles, ils ont rarement donné aux catholiques le statut qu'ils ont demandé à la France, par exemple, à la fin du XVIIIe siècle. C'est un des arguments qu'on a opposé d'ailleurs à l'édit de tolérance. Voilà. La seule exception, c'est la Hollande. Ce qu'on appelle le mariage à la hollandaise, de quoi s'agit-il? C'est que dans les terres calvinistes hollandaises du XVIe siècle, les prêtres étaient chassés, interdits de séjour, comme l'ont été les pasteurs en France au XVIIIe siècle. Donc, il n'y avait pas de curé ni d'église catholique dans la Hollande calviniste du XVIe siècle. Mais les citoyens catholiques, non protestants, on ne les forçait pas d'aller se marier devant le pasteur. Ils pouvaient le faire devant le magistrat. Donc c'est le premier mariage civil, si vous voulez, inventé par les protestants. C'est en Hollande, en 1647. Voilà, c'est le seul précédent. Ceci dit, mettez-vous dans la peau d'un catholique, ce n'était pas un cadeau. Parce que c'est contraire totalement à leur théologie du mariage. Donc c'est quelque part, c'est presque irrecevable pour eux. Hein. Ce n'est pas les respecter dans leur religion que de leur proposer un mariage civil devant magistrat sans curé. Voilà. Après, l'Angleterre du XVIIe siècle, c'est très controversé. Voilà. Les catholiques ont eu une sorte de tolérance civile, un droit de séjour. N'ont pas été chassés d'Angleterre comme l'ont été les Huguenots français, mais une tolérance très très limitée aussi, très très restrictive. La tolérance civile telle qu'on la conçoit, elle date de la fin du XVIIIe siècle.
Bien, merci Michel pour ces précisions et ce regard, ce panorama européen. Je mentionne que vous pouvez aussi retrouver une partie de l'exposé de Michel, disons une précision sur la synthèse historique sur cette question du mariage protestant et du mariage civil dans un des numéros de la revue Réformée, publié par les éditions Kérigma. Vous retrouverez aussi une contribution de Michel Yonner dans le dernier numéro de la revue Réformée sur la question des turbulences de l'amour dans la pensée contemporaine, un de ses derniers articles.
suite à un colloque qui a eu lieu à la faculté de théologie. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi venir prolonger la conversation et le dialogue avec Michel ici après la conférence. Je précise enfin que la prochaine conférence ici, ce sera dans le cadre du cycle, cette fois, les protestants et le pouvoir. Et on s'attardera sur un personnage majeur de la France du 19e siècle et du début du 20e siècle. Il s'agit d'un fils de pasteur évangélique qui a été le président de la Ligue des droits de l'homme, ligue fondée lors de l'affaire Dreyfus. Et il s'agit donc de Francis de Pressensé, fils de Edmond Pressensé, grand pasteur évangélique français, qui se détourne de la foi de son père, mais qui s'investit considérablement dans cette Ligue des droits de l'homme et qui met en relief ce qu'on a souvent mis de côté lorsqu'on traite de cette question du pouvoir, le pouvoir donc des associations, le pouvoir de ces groupements humains qui vont agir au plus près du territoire. Et c'est très marquant, notamment lorsqu'on étudie la carte électorale, par exemple, du protestantisme français. On retrouve l'implantation du vote protestant à gauche avec les sections quasiment, on pourrait faire un calque, du vote protestant à gauche avec les sections, justement, de la Ligue des droits de l'homme dans le Midi Cévenol. Donc, c'est un sujet qu'on traitera avec Rémi Fabre, qui était professeur à l'université à Paris 10, si je me souviens bien, et il viendra traiter de cette question ici, donc le vendredi 3 juin à 18h30. Et je vous invite, évidemment, comme d'habitude, à vous munir du programme et puis à suivre sur notre site les éventuelles modifications. Vous pourrez retrouver cette conférence aussi en ligne. On a eu une conférence avec Patrick Cabanel hier soir à Aix-en-Provence sur la question de la résistance des protestants pendant la Seconde Guerre mondiale, une unique synthèse, c'est la première fois qu'il y a une synthèse décrite sur ce sujet. Vous pourrez aussi retrouver cette conférence d'ici quelques jours, patientez, ne soyez pas impatients, vous la retrouverez d'ici quelques jours sur le site de la librairie. Voilà, je vous souhaite à tous un bon retour. Merci pour votre présence, malgré le soleil, et d'avoir été courageux de venir écouter cette conférence alors que nous sommes enfermés dans une pièce. Merci beaucoup à Michel pour cette présentation synthétique et difficile du mariage protestant au désert, et je vous propose encore de le remercier.